Alors, M. Battili est venu pour faire entendre raison à M. Sassou conformément au message reçu par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je ne pense pas que M. Battili ait réussi. En tout cas, on peut dire qu'il n'a pas réussi cette mission-là. Il a trouvé localement une autre situation, qui est celle de l'enfermement de deux leaders de l'opposition à domicile, arrêtés pour des raisons inconnues du public. Et là également, il n'a pas réussi à leur faire retrouver leur liberté. Si bien que quand nous l'avons rencontré quelques heures avant son départ, il nous a signifié qu'il partait un peu découragé de n'avoir pas réussi à faire changer les choses. Mais quand même avec un peu d'optimisme en disant qu'il avait perçu au moins une chose certaine sur laquelle il allait travailler, c'est qu'il avait découvert que entre l'opposition et la majorité présidentielle, nous étions tombés d'accord sur une nécessité, la nécessité de mettre en place une bonne gouvernance électorale. Et sur ce créneau-là, les Nations Unies sont suffisamment outillées pour nous apporter leur soutien et leur assistance, que si ça dépendait que de lui, il trouverait les moyens nécessaires pour que dans un proche avenir, ils reviennent pour nous concerter sur cette question-là.
Oui, justement, vous parlez de la gouvernance électorale. Est-ce à dire que l'adoption de cette constitution, de ce projet de constitution, est déjà entérinée par l'opposition?
Ah non, pas du tout. Nous avons dit qu'il faut qu'on retire ce projet qui est complètement illégal, avec une constitution perfide, qui renferme en son sein deux articles tout à fait loufoques, parce qu'ils ont trait à l'impunité de tout crime et de tout vol que commettrait M. Sassou. Et ça, nous n'acceptons pas. Mais nous sommes devant un négociateur hors pair, M. Battili, qui lui nous dit, ouais, ce sont vos conditions, mais on peut enjamber vos conditions pour entrer dans le domaine de la gouvernance électorale. Et vous verrez que de cette gouvernance électorale vont découler un certain nombre de conséquences qui pourraient régler ce problème a posteriori. Bon, nous avons dit, on va regarder, mais c'est juste une mise de pied à l'étrier, hein. On commence à rentrer dans cette voie de négociation, mais on va regarder au cas par cas comment on peut effectivement initier ce travail sur la gouvernance électorale et mettre de côté provisoirement, accessoirement, la question du référendum qui pour nous est un non-événement.
Ouais. Et si le PCT au pouvoir refuse donc d'accéder à votre demande, c'est-à-dire annuler ce référendum, que fera l'opposition congolaise?
Si M. Sassou annule ce référendum, on retombe sur nos pieds et on s'engage résolument dans la gouvernance électorale pour préparer l'élection de 2016. Il y aura certainement un problème de timing parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et pour mettre en place une telle gouvernance électorale, certainement que nous aurons un problème de délai, mais ça peut rentrer dans la négociation. Et c'est les choses qu'on peut voir si nous sommes encadrés par la communauté internationale, pour que le glissement ne soit pas trop profitable à M. Sassou.
Est-ce que finalement le soutien affiché par François Hollande à M. Sassou Nguesso dans l'organisation de ce référendum, est-ce que ce soutien finalement ne vous a pas desservi, vous, opposition congolaise?
Oui, dans un premier temps, ça nous a fait comme si on avait reçu un coup de poignard dans le dos. Hein. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Mais monsieur François Hollande n'est pas aussi loufoque que ça, n'est pas... C'est un monsieur conséquent qui a dû faire cela certainement en suivant des conseillers qui n'étaient pas très au courant de ce qui se passait au Congo. Il a vite rétropédalé pour convenir que même si M. Sassou avait l'autorisation de faire une consultation populaire, mais les conditions dans lesquelles s'est faite cette consultation ne sont pas du goût des démocrates. Et d'ailleurs, hier, leur dernier communiqué fait état de ce que les conditions d'organisation du référendum n'ont pas été transparentes et la France vient de déclarer qu'elle ne reconnaît pas ses résultats.
D'accord.
Ça nous satisfait certainement, mais nous savons maintenant que la France est liée à cela, à cette proclamation des résultats qu'elle ne trouve pas conforme. C'est notre cas. Donc nous repartons sur la même base, en oubliant un peu ces temps d'hésitation qui a caractérisé la politique étrangère de la France.
L'opposition est scindée en ce moment en plusieurs plateformes. Est-ce que cette désunion, si on peut le dire, ne va pas peut-être vous desservir aussi?
Non, il y a deux plateformes. C'est l'UFROCAD et l'IDC. Il n'y en a pas d'autres.
Oui, mais deux plateformes pour une opposition, c'est pas trop?
La société civile ne va pas au suffrage universel. Deux plateformes, c'est des gens que nous ne connaissions pas, vraiment. Nous n'avons pas voulu faire une fusion immédiate le temps qu'on se connaisse. Donc, c'est un mariage, hein, une alliance politique. C'est un mariage un peu comme un homme et une femme s'observent avant de, dans des fiançailles relativement courtes ou longues, et décident enfin de se marier. C'est, nous sommes dans la même situation. C'est des gens qui étaient avec la majorité présidentielle, hein, ministre au Congrès, et jusqu'à présent député du PCT. Brice Colella est député du MCDD, mais affilié au PCT. Il n'est plus ministre. Donc c'est des gens qui ont leurs racines du côté de la majorité présidentielle, même s'ils ont rompu en adoptant notre thème fondamental qui est le non au référendum. Nous les observons et nous voyons que finalement, nous ne sommes pas habillés du même habit. Et donc, le temps qu'on harmonise, qu'on s'en concerte bien sur les objectifs, ça nous permet de nous observer. Le moment viendra où nous allons faire la fusion totale en un seul bloc, mais quand il s'agira à ce moment-là des échéances électorales. Mais pour l'heure, qu'on ait besoin de se mettre tous dans la même culotte.